Quelque chose avant que l'on enregistre
Notre méditation de ce matin. Peut-être que vous avez remarqué, mais un passage qui m'est très cher, c'est le passage du fils prodigue, et que moi j'appelle le fils perdu. Je vous ai déjà expliqué que il y a la brebis perdue, il y a la drachme perdue et il y a le fils perdu. Alors le fils prodigue, évidemment, comme nous sommes dans un monde matériel, certains chrétiens, qui ceux qui mettent les titres en haut des chapitres et des paragraphes, eh bien ont vu une perte financière. Alors ils disent le fils prodigue. Mais moi je dis c'est pas le fils prodigue, c'est le fils perdu. Parce que la réalité c'est qu'il est perdu. C'est pas qu'il est prodigue. L'argent que périsse cet homme avec son argent. Mais ce qu'il y a, c'est que cet homme a été perdu. Il était perdu par son père. Il était loin de son père. Et voilà que le verset sur lequel je voudrais venir ce matin, c'est les versets 18 et 19, 20 et 20, les trois versets. Je me lèverai. J'irai vers mon père et je dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion, il courut se jeter à son cou et le baisa. C'est le chapitre 11 de Luc. Excusez-moi, je vais pas donner toutes les références. Mais il y a quelque temps, j'avais donné une étude, une méditation dans Romains chapitre 8, et plusieurs personnes m'ont dit, eh bien, c'est vrai, nous as bien montré que on a perdu notre premier amour, mais comment retrouver le premier amour? Comment est-ce qu'on revient à Dieu quand on s'est éloigné? Et comme je vous l'avais dit, il y a une dérive spirituelle dans notre vie chrétienne. On est comme un bateau, et puis les courants insidieux, on ne les voit pas. Il y a des courants de fond qui finalement nous emportent et nous éloignent. Et un jour, on se dit, mais je suis si loin. C'est vrai que nous sommes loin parfois. Et nous sommes d'une manière pas évidente. Nous sommes éloignés, notre cœur s'est éloigné. Nos pieds sont toujours dans l'église, nous allons toujours aux réunions, nous sommes fidèlement assidus à ce que nous devons faire, mais il y a quelque chose, notre cœur s'est éloigné de Dieu. Il y a quelque chose, une tiédeur qui s'est installée, et le malheur, c'est d'accepter cela comme une fatalité. Ben voilà, j'ai plus le premier amour, j'ai plus le premier élan qui m'entraînait vers Dieu. C'est quelque chose de s'être éloigné de Dieu. Mais en fait, nous ne sommes pas éloignés de Dieu d'une manière physique, mais nous n'avons plus cette soif et ce désir de prier, de lire la Bible. Notre témoignage n'est plus joyeux et enthousiaste. Nous parlons des choses chrétiennes comme on parle de la pluie et du beau temps. Excusez-moi. C'est malheureux d'en arriver là, mais c'est quelque chose qui arrive à tout chrétien. À un moment ou à un autre, on constate qu'il y a une dérive dans notre vie chrétienne et que notre premier amour n'est pas intact. Il y a quelque chose qui s'est perdu. Et quand nous constatons cela, il est impératif d'apporter une solution. Parce que ce n'est pas simplement de constater un fait et de dire, voilà, je me suis éloigné, je suis loin de Dieu et de continuer notre éloignement. Parce que au moment où on constate la chose, eh bien, nous ne nous arrêtons pas. On continue à s'éloigner. On continue à aller toujours plus loin. Et puis un jour, eh bien, on se dit, oh, aujourd'hui, c'est pas tout à fait. Et puis on ne va pas au culte. Et puis on y va une fois, on n'y va pas une fois. Puis le mois suivant, on se dit, oh, une fois de temps en temps que je n'y aille pas, ça n'est pas. Et puis au fur et à mesure, on accepte l'inacceptable. Ce qui, au départ, aurait été une énormité, eh bien, on finit par l'accepter facilement. C'est comme cela. C'est dans notre vie chrétienne, il y a un moment où nous avons, nous dérivons. Notre cœur a changé par rapport à Dieu. Nous ne sommes plus les mêmes. Et alors, il y a ce moment où on se dit, voilà, mais où j'en suis? On fait le bilan et on se dit, je suis loin de Dieu. J'ai fait des choses qui ne se font pas. Mon cœur s'est attiédi. Je ne suis plus tout à fait ce qu'il faudrait. Et voilà notre brave homme, le fils perdu, qui se trouve dans cette situation-là. Certainement, il est allé beaucoup plus loin. Et puis, le Seigneur Jésus a dû scandaliser les pharisiens quand il a raconté cette histoire, parce que la pire, pire, pire des choses qui pouvaient arriver à un juif, parce qu'il parle d'un enfant d'Israël, hein, c'est pas le fils prodigue, le fils perdu, c'est un enfant d'Israël. Il est allé garder les pourceaux. C'est la pire des choses qui pouvaient exister pour un enfant d'Israël, c'est d'être gardien de pourceaux. Et il fallait vraiment que dans sa morale, il soit descendu encore plus bas que ce qui était possible. Parce que même si un enfant d'Israël s'éloigne de Dieu, quand même, il n'ira pas garder des pourceaux. C'est la dernière des choses qu'il ferait. Et là, il l'a fait. Et non seulement cela, mais c'est que si on lui avait donné la nourriture des pourceaux, il en aurait mangé. Pour vous dire, la déchéance et l'éloignement, et combien il était loin de son père, loin des principes que son père lui avait inculqués. C'est normalement, jamais, jamais, il aurait dérivé autant. Mais là, sa dérive est totale. Il est allé si loin qu'il est prêt même à être en compagnie d'un animal impur, l'animal impur par excellence, et puis de manger cette nourriture infecte, la nourriture des pourceaux. Je dis infecte, ce n'est pas tout à fait exact. Les carouges, j'en ai mangé une fois pour goûter ce que c'était. On m'a dit, ça c'est un caroubier, et la carouge, c'est une grande cosse qui mesure 50 cm à peu près, et c'est assez bon à manger. Et si vous regardez parfois derrière les paquets, vous verrez carouge. Et il y a dans les gâteaux la farine de carouge. Donc ça, c'est pour votre instruction. Et si vous en mangez quand même, même si vous ne le savez pas. Mais c'est pas si mauvais que ça. Mais c'était quand même la nourriture des pourceaux. Alors il n'aurait même pas dû en manger, mais il était prêt à en manger. Et c'est à un moment, il y a cette prise de position, cette prise de conscience, le moment où on se rend compte et on dit, voilà, je me suis éloigné, je suis loin. Il est nécessaire de s'arrêter et de dire à quel moment je me suis tombé, à quel moment je me suis éloigné. Quand est-ce que la tiédeur a commencé à remplir mon cœur? Quand est-ce que j'ai mon ancre a filé? Quand est-ce que j'ai perdu mon ancre et que j'ai commencé à dériver? Et souvent, on peut dire oui, c'est à cette date-là, c'est à ce moment-là. Dans cette circonstance-là, je n'ai pas été exact. Je n'ai pas fait les choses. J'ai toléré que de ne plus prier, ou de prier moins, ou de prier avec moins d'attention, de ne plus m'inquiéter des frères et sœurs, ou le Seigneur mettait sur mon cœur une personne pour qui il fallait que je prie, et puis, bon, je suis. Et c'est là à commencer. Il y a un commencement. Et le commencement n'est pas quelque chose de. Nous n'avons pas commis un grave péché, si je puis m'exprimer ainsi. Mais c'était simplement une négligence. Nous avons négligé quelque chose. Nous avons négligé la parole de Dieu. Nous avons négligé, quand nous étions au culte, de vraiment être présents au culte. On était au culte, c'est tout. Mais on n'était pas vraiment dans le culte. Nous avons commencé à un moment par quelque chose qui n'était pas. Si on le disait à n'importe qui, on disait pas grave. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas quelque chose qui porte à grandes conséquences. Mais Cette porte a grandes conséquences parce que vous avez commencé à vous éloigner de Dieu à ce moment-là. C'est si vous, je ne suis pas très fort ni en maths ni en géométrie, tout ce qui concerne les chiffres et ces choses-là, je ne suis pas fort du tout. Mais je sais une chose, c'est que si vous commencez à un point et que vous vous écartez, vous créez un angle. Même si l'angle est tout petit, tout petit, tout petit, vous poursuivez votre éloignement et vous serez loin de la première droite. Et si vous pouvez mettre l'univers entre les deux droites, mais c'est l'angle est tout petit au départ et vous vous éloignez. Chaque pas vous éloigne davantage. C'est, je vais pas plus loin dans mes références géométriques parce que j'espère que vous avez compris ce que je voulais dire. Mes connaissances vont pas si plus loin, beaucoup plus loin. Mais c'est vrai que nous avons commencé par un petit commencement et nous sommes sur le chemin de l'éloignement et nous poursuivons dans l'éloignement et nous faisons des pas dans l'éloignement. Et si bien que l'angle, même s'il est tout petit au départ, eh bien la distance à la fin finit par être très grande. Et nous disons, mais comment est-ce que j'ai pu m'éloigner autant? Et alors nous disons, mais maintenant, je reviens au point de départ. Maintenant, je reviens à ce qui était, ce que je sais être vrai, ce que je sais être le point fixe, l'essentiel. Et cet homme, eh bien, il a dit, je me lèverai. Et c'est là que tout le commencement de la chose. Il a dit, je me lèverai. Je changerai. Je ferai ce qui est nécessaire pour changer. C'est ce moment-là qui est le moment déterminant dans la vie de ce fils perdu. Il a pris position, il s'est dit, je vais me lever. Beaucoup de personnes prennent les choses avec fatalité et se restent assises par terre et à regarder les pourceaux et la nourriture des pourceaux et ne vont pas beaucoup plus loin. Elles ont dit, ben voilà, je suis tombé, je suis loin. Et c'est un sentiment de défaite. Nous avons perdu l'essentiel. Nous le savons, nous le constatons et nous ne faisons rien pour le changer. C'est un découragement. On se dit, mais je suis si loin, je n'y arriverai pas. Mais le fils perdu, il s'est dit, je me lèverai. Et il y a un moment où on prend cette décision. Je vais me lever, je vais y aller et je vais faire ce qu'il faut que je fasse. Et alors il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon père, je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis pas digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Voilà la bonne attitude. Il a dit, je me lèverai, je poursuivrai, j'irai jusqu'au bout, j'irai jusqu'au moment où je verrai mon père face à face et je lui dirai, voilà, je te demande pardon, fais de moi ce que tu veux, mais la seule chose que je désire, c'est d'être dans ta présence. Si je suis comme un serviteur, ça n'a aucune importance. Ce que je veux, c'est d'être dans ta présence. Et la réponse du père, c'est de le rétablir dans ce qu'il était avant. C'est très très important de commencer et d'aller dans le bon chemin. C'est de dire, je prendrai toutes les dispositions nécessaires, quoi qu'elles me coûtent, quoi qu'elles me coûtent. Et s'il faut demander pardon à quelqu'un, il faut aller demander pardon à ce quelqu'un. Et il faut lui dire, voilà, j'ai péché, j'ai fait quelque chose de grave, j'ai fait ce qu'il ne faut pas faire. C'est on se met du côté de Dieu contre nous. Et ça, c'est quelque chose de très important. Dieu est saint et il est juste. Et nous avons fait quelque chose de mal. Alors, on se met du côté de Dieu et on dit, j'ai fait ce qui est mal. Juge-moi, comme selon ta justice. On est prêt à être jugé. Et on se juge comme Dieu nous juge. Ça, c'est une chose importante. Et si vous ne l'avez jamais fait, faites-le. C'est, ne vous cherchez pas des circonstances atténuantes. Ne dites pas, oui, ben, j'ai pas fait attention, c'est par inadvertance, les mots ont dépassé ma pensée, je ne suis. Tout ça, ce sont des atermoiements qui ne vous amèneront nulle part. Elles ne font que vous arrêter dans votre retour à Dieu, le rétablissement d'une communion parfaite avec Dieu. C'est ne vous cherchez aucune excuse. C'est le regard de Dieu que vous devez porter sur votre vie, pas votre regard humain. C'est la sensibilité de Dieu doit vous regarder, pas la vôtre. Et à partir de là, eh bien, vous pouvez regarder le péché et la désobéissance et la tiédeur et la négligence et toutes ces choses d'une autre manière. Ce n'est pas la manière humaine, c'est la manière divine. Quand Dieu dit de prier, c'est prier. Ce n'est pas ce que l'homme appelle prier, c'est ce que Dieu appelle prier. Quand Dieu dit de sonder les Écritures, eh bien c'est la manière de Dieu de sonder les Écritures. Ce n'est pas notre manière humaine. Nous sommes humains, c'est toujours. La négligence, c'est le remettre à plus tard, c'est limiter dans le temps, mais c'est la parole de Dieu doit vraiment être la parole de Dieu dans notre vie. La prière doit vraiment être la prière. La communion fraternelle doit vraiment être la communion fraternelle. Nos frères et sœurs doivent compter pour nous, plus que notre vie. Est-ce que c'est vraiment le cas? Le Seigneur nous le demande et nous devons nous examiner et remettre les choses à l'heure et de dire voilà, c'est ce que Dieu demande, c'est pas moi ce que je vois. Et le premier amour, c'est justement cet élan divin en nous. C'est quand nous avons été réconciliés avec Dieu, Dieu a mis son Saint-Esprit en nous. Et le Saint-Esprit, Dieu, eh bien, nous pousse à ce moment-là et nous aimons prier. Et nous aimons lire la Bible, et nous aimons témoigner, et nous aimons être dans la communion fraternelle. Je peux vous dire que quand je me suis converti, je pouvais chanter les cantiques, je chantais au milieu des autres ouvriers, mais c'était que je chante fort ou que je chante doucement, je chantais plutôt fort. Et il y avait un ouvrier qui est venu. Il m'a dit, qu'est-ce que tu chantes? Alors, on était en train de faire des façades. Alors, faire des façades, c'est pas quelque chose de facile. Et alors, on était en train de piquer et repiquer des façades. Et puis, il s'est approché et il m'a dit, qu'est-ce que tu chantes? Il était portugais. Et alors, je lui ai dit, ben, c'est un cantique, parce que je suis chrétien. J'ai accepté Jésus-Christ comme mon sauveur, je suis né de nouveau et je chante des cantiques. Il m'a dit, tu sais, un jour, moi aussi, je chantais des cantiques. Et j'étais chrétien. Et il est reparti travailler. Il avait perdu. Je ne savais pas que je travaillais avec un ouvrier qui était de nouveau à un moment donné. Et puis, bon. Et puis, je continue à chanter mes cantiques. Et il y a un autre ouvrier qui s'est approché. Il m'a dit, qu'est-ce que tu chantes? Et je lui ai dit, ben, je chante un cantique. Je suis chrétien. Il me dit, moi aussi, j'étais chrétien aussi. Et aussi, je chantais un jour des cantiques. C'était aussi un Portugais. Et c'est sur un même chantier, nous étions trois chrétiens. Je venais de me convertir et eux étaient rétrogrades. Ils étaient loin du Seigneur. Ils pouvaient dire, je chantais un jour des cantiques. Je chantais plus des cantiques. Ils vivaient la vie du monde. Et c'était quelque chose, vous savez. Dieu me donnait une joie tellement grande, tellement immense, il était tellement merveilleux. C'est le premier amour. On parle, on chante, on est heureux, mais on ne s'imagine pas, mais on se dit, mais qu'est-ce que les gens vont penser de moi, que je suis fou? Mais eh bien, qui pensent que je suis fou? C'est tant pis pour eux. C'est la folie, c'est d'aller en enfer. C'est pas d'aller au ciel. Ça, c'est vrai, la vraie folie. D'avoir une perte éternelle, d'être éternellement perdu, ça, c'est de la folie. Et celui qui est né de nouveau et qui est heureux d'être né de nouveau et réconcilié avec Dieu, ça, c'est la vraie sagesse. Et ne vous laissez pas intimider par ceux qui diraient tu es un fou. Mais non, non, la folie est de l'autre côté. Ce sont ceux qui traitent les autres de fous qui sont les vrais fous. Enfin, je ne veux pas rentrer plus loin dans cette chose-là. Mais c'est le premier amour est quelque chose de merveilleux. Si nous l'avons perdu, nous devons tout faire pour le retrouver. Et là, je vous ramène à aux deux autres paraboles. Il y avait une femme qui avait perdu une drachme, et puis un berger qui avait perdu une brebis. Et quand vous regardez, vous lisez bien cette histoire, cette dame qui a perdu cette drachme, c'est parce que c'est un collier, hein, et on mettait 10 drachmes sur un fil ou quelque chose d'autre, et parce qu'elle était percée d'un trou. Et alors, c'était comme ça. C'était la mode. Et alors, elle en avait perdu une, mais elle a fouillé toute la maison. Elle a tout fait pour la retrouver. Elle a mis sa maison sens dessus dessous, jusqu'au moment où elle l'a retrouvée. Et quand elle l'a retrouvée, dans sa joie, elle est allée dire à tout le monde qu'elle avait retrouvé sa drachme. Ils ont dit. C'est tellement joyeuse pour elle. Si elle n'avait eu que neuf, après tout, elle restait quand même neuf. Pourquoi est-ce qu'elle est allée chercher? Puis elle aurait retrouvé peut-être retrouvée par hasard. Elle aurait retrouvé la dixième un jour en déplaçant un meuble. Ah tiens, voilà, je l'ai perdu. Je vais vous dire, vous ne retrouverez jamais votre premier amour par hasard. Ça, c'est certain. Si vous ne mettez pas la maison de fond en comble, et ça permet de faire un gros nettoyage. Elle a fait le nettoyage de sa maison. Elle a tout nettoyé, tout purifié. Et en fin de compte, et j'imagine qu'au dernier endroit, là où après qu'elle ait tout nettoyé complètement, elle a retrouvé la drachme perdue. C'était l'endroit qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'elle soit. Et elle a mais nettoyé la maison complètement. Et je peux vous dire un jour. Je cherchais vraiment à marcher plus avec le Seigneur. Et j'étais vraiment tourmenté à cause du péché, parce que le péché pour moi me tourmentait terriblement. Et je me voyais tomber dans des péchés. Et je me disais, mais comment tu es chrétien et tu tombes encore dans ces péchés? Et là, je peux vous dire, le premier amour, il était loin. Et j'étais vraiment, vraiment dans les larmes et dans un désarroi complet. Et je priais, je criais, je demandais à Dieu et je tournais en rond dans ma chambre. J'ai tourné, j'ai dit, mais est-ce que tu es vraiment sauvé? Mais si tu étais sauvé, tu ne tomberais pas dans ces péchés. Et j'étais vraiment dans une détresse énorme, énorme. Et un jour, c'était un dimanche après-midi. Dimanche après-midi, on n'avait rien. Et puis, bon, je m'ennuyais pas mal. Et j'étais dans la salle. Et je tournais dans la salle. Et puis, je me suis approché de la bibliothèque. Et j'ai pris un livre. Comme je faisais souvent, je prends un livre, je le repose. Quand je suis comme ça, je prends un livre, je lis deux, trois phrases, je le repose, je prends un autre et puis je tourne, je vais. Il y a un verset dans les psaumes qui caractérise bien ça. Et alors, j'ai pris un livre et je l'ai pris au milieu et puis j'ai commencé à lire et puis j'ai lu et puis j'ai lu et puis j'ai lu et puis je l'ai terminé, mais debout devant la bibliothèque. Et puis je l'ai terminé. J'aimerais bien que tu recommences. Tu lises au début parce que tu as lu que. Alors j'ai relu carrément, tout entier. Il y avait à peu près 200 pages. Donc j'ai lu à peu près 300 pages debout devant la bibliothèque. Et ça m'a vraiment secoué. Il disait de mettre sa vie en règle. Alors j'ai mis ma vie en règle. J'ai écrit des lettres. J'ai demandé pardon. J'ai remboursé de l'argent que je pensais devoir. Il paraît que je ne le devais pas. Mais moi, ma conscience me disait que je devais. Et alors, j'ai fait tout ce qu'il fallait. Et puis, le Seigneur a béni. Le Seigneur a béni. C'est là que le Seigneur m'a montré la plénitude du Saint-Esprit et que j'ai découvert la plénitude du Saint-Esprit. Je ne savais même pas qu'on pouvait avoir, je ne savais même pas comment demander. Je connaissais des milieux qui en parlaient, mais je n'étais pas d'accord. Mais c'est à ce moment-là, et à partir du moment où j'ai mis ma vie en règle, totalement, balayé la maison de fond en comble, tout ce qui me venait à l'esprit. J'ai prié, Seigneur, montre-moi. Et j'ai, à chaque fois qu'il me montrait quelque chose, je le nettoyais complètement de fond en comble. Et à chaque fois, et jusqu'au moment où il n'y avait plus rien. Parce qu'à chaque fois que je priais, Satan venait me dire des choses, qui, des péchés que j'avais commis avant ma conversion. Et puis, j'étais tourmenté par ces choses qui venaient, que j'avais faites avant ma conversion. Mais à partir de ce moment-là, elles étaient réglées totalement. Jamais plus Satan est venu me troubler pour quelque chose que j'ai fait avant ma conversion. Parce que tout avait été mis en règle, en fond en comble. Et le Seigneur m'a fait découvrir quelque chose de si merveilleux, de si grand. C'était la plénitude de son Saint-Esprit. Et ça, c'est quelque chose de merveilleux. C'est le Seigneur veut que la maison soit balayée de fond en comble. Priez, demandez au Seigneur qu'il vous éclaire, qu'il vous montre les choses qui ne vont pas. C'est ne vous faites aucune pitié. La pitié du moi n'est pas biblique. Nous ne devons pas avoir pitié du moi. La parole de Dieu nous enseigne que le moi, il doit être crucifié. Paul disait, j'ai été crucifié avec Christ. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je vis dans la chair néanmoins, mais je vis par la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Et c'est quand nous mettons notre vie en règle totalement, définitivement, qu'à ce moment-là, eh bien Dieu peut faire quelque chose dans notre vie. Mais le commencement, c'est je me lèverai, j'irai vers mon Père et je lui dirai, j'ai péché contre le ciel et contre toi. J'ai fait ce qui est mal. Et à partir du moment où on admet, on reconnaît ses fautes, que l'on les met en règle, qu'on nettoie la maison complètement, à partir de ce moment-là, eh bien, le Seigneur peut intervenir dans notre vie. Il peut faire quelque chose. Mais tant que nous ne le faisons pas et que nous ajournons, eh bien, nous sommes menés de jour en jour de petits sentiments qui nous troublent. Et Satan peut nous amener jusqu'à la fin de notre vie et de remettre à plus tard. Ne remettez pas à plus tard. S'il avait remis à plus tard, il serait mort de faim à côté de ses pourceaux. Mais il n'a pas remis à plus tard. À un moment, il a dit, je me lèverai, quoi qu'il en coûte, quoi qu'il arrive, j'irai et je ferai. Il s'est donné tout un programme. Et il est allé, ce programme, il l'a accompli jusqu'au bout. Et dans les paroles même qu'il devait dire, eh bien, il est allé dire à son père ce qu'il avait prévu de dire. Et à ce moment-là, son père lui a dit, eh bien, tu vas être le dernier des mercenaires et tu vas... Pas du tout. C'était son fils. Même s'il avait péché, même s'il était loin, même s'il avait fait, même si, il était quand même son fils. Il n'a pas renié son fils. Il l'a pris dans ses bras, avec ses haillons, avec sa crasse, avec sa puanteur. Parce que j'imagine que c'était sous tout ça, son fils. Et il l'a embrassé. C'était son fils. Il est retrouvé. Oh, bien sûr, après, il a dit, il faut le revêtir de la plus belle robe. Mais il était nettoyé après. Mais il est revenu. Il est revenu. Ça, c'est quelque chose de très important. Ce retour. Quand on prend conscience que l'on est loin, que l'on fait tout ce qu'il faut pour revenir, que l'on met sa vie en règle complètement. Et vous dites, mais c'est vrai que j'ai pris de mauvaises habitudes. C'est vrai que c'est même si je mets tout en règle, eh bien, il y a des choses, j'ai des sentiments qui ne reviennent pas, etc. David était tombé gravement, très, très gravement. Il avait commis un meurtre et il avait commis un adultère. Il avait commis un adultère avant de commettre un meurtre. Et parce qu'il a commis l'adultère, il a commis le meurtre. Et il a vécu à peu près, on pense, à peu près 2 ans dans cette, avec une conscience, j'imagine, je ne veux pas avoir sa mauvaise conscience, hein, parce qu'il devait aller très, 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 très mal. Et il disait qu'il y avait un feu qui brûlait dans ses os. Hein. C'était quelque chose, tant que je me suis tué, un feu brûlait dans mes os. Ça, c'est quelque chose de terrible. Et il avait endurci, été endurci, parce qu'il y a une autre chose, c'est l'endurcissement. On a tellement toléré cette situation que l'on s'est endurci. Et pour vaincre cet endurcissement, eh bien David, au psaume 51, dit: Crée en moi un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé. Et nous avons besoin de prier cette prière. C'est Dieu ne méprise pas un cœur brisé et contrit. Quelqu'un qui est brisé, eh bien Dieu a le regard sur cet homme, sur cette femme. Et il dit, voilà, c'est le bon commencement, c'est le brisement. C'est prier et demander à Dieu de créer en vous. Et c'est lui qui va le créer. Vous ne pourrez pas le faire. Vous ne pourrez pas avoir de nouveau un cœur pur et un esprit bien disposé. Il faut que Dieu le crée en vous. C'est une œuvre divine. Pour revenir à Dieu, d'abord on revient. Ensuite on met sa vie en règle. Et on demande pardon et ensuite, eh bien, Dieu peut créer et faire quelque chose. Dieu ne fera jamais rien dans un cœur souillé, dans quelqu'un qui n'est pas prêt à reconnaître ses torts, quelqu'un qui a de l'orgueil et qui a de la susceptibilité et qui se dit, moi, aller demander pardon, moi, aller reconnaître des torts. Oh, non. Alors là, ce n'est pas un bon terrain pour que Dieu puisse planter quoi que ce soit, et rien ne poussera. C'est malheureux, mais c'est comme ça. Nous avons besoin de passer par les autres étapes, et à ce moment-là, on dit, Seigneur, crée en moi, mets cette semence en moi d'un cœur pur, un esprit bien disposé, quelqu'un qui aime Dieu, quelqu'un qui a de bonnes dispositions, et le premier amour, et aussi dans de bonnes dispositions vis-à-vis de Dieu. Dieu est vraiment précieux pour nous. Il est vraiment le Dieu tout-puissant, le Dieu véritable, le Dieu que nous aimons. Et nous aimons sa communion, et nous aimons sa présence. Ça, c'est quelque chose d'important. Revenir à Dieu, eh bien, c'est une démarche, et c'est quelque chose de sérieux. Nous devons être sérieux quand nous faisons ce retour à Dieu. Et je vous encourage, même si vous ne vous êtes pas éloigné de Dieu, ou si vous n'êtes pas éloigné beaucoup, c'est de régulièrement prier et de mettre les choses en règle, et de ne jamais tolérer la moindre mauvaise conscience. Si vous avez quelque chose qui vous trouble au fond de vous-même, et vous savez, quand vous avez mauvaise conscience, il y a quelque chose qui n'est pas, votre communion avec Dieu n'est pas parfaite. Et alors arrêtez tout et mettez les choses en règle. Et ne laissez pas votre vie s'alourdir par une chose et puis une autre et puis une autre. Parce que chaque pas que vous faites vous éloigne de Dieu. C'est après pour revenir, c'est beaucoup plus long, c'est beaucoup plus dramatique et il faut mettre beaucoup plus de choses en règle. Ne laissez jamais, dès que vous vous rendez compte que vous êtes, il y a une ombre entre dans la communion avec Dieu, entre Dieu et vous, arrêtez tout. Mettez en règle immédiatement, immédiatement. Je me rappelle, il y a quelques années, maintenant il y a bien des années, parce que ça, je dis, il y a si longtemps que je dis il y a quelques années, maintenant ça fait plus de 35 ans peut-être. Mais j'avais fait une expérience avec le Seigneur qui était vraiment merveilleuse, extraordinaire. Le Seigneur était tellement près de moi que je me disais, je peux le toucher, tellement il était près. C'était une communion, le ciel sur la terre. Et alors, à ce moment-là, je la gardais, et s'il y avait eu quoi que ce soit, elle était tellement importante pour moi que j'aurais tout de suite mis en règle. Et à un moment, ce que je ne voulais pas qui arrive est arrivé. Ma communion n'était plus pareille. Alors là, je me suis angoissé, j'étais dans la détresse terrible. J'ai prié, j'ai cherché, je me suis examiné, je me suis retourné à l'envers, à l'endroit, j'ai cherché dans tous les sens, dans tous les replis, il n'y avait rien. Et j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, mais montre-moi, montre-moi, si tu me montres, je le mets en règle, tout de suite, tout de suite, tout de suite. Je veux rien, rien avoir, hein. Et puis, il ne me montrait rien. Et alors, j'étais vraiment, vraiment dans une grande détresse parce qu'il n'y avait rien qui me montrait. Et alors, quelqu'un a frappé à la porte. Je suis allé et cette personne m'a dit: Ah, tu sais, Jean-Alain, j'ai un grave problème. Alors, au fond de moi, j'ai dit: Tu as un problème, peut-être pas aussi gros que le mien. Tu veux bien que tu me laisses tranquille pour que je règle mon problème. Mais bon, il est rentré. Je l'ai fait rentrer, on a discuté de son problème, on a prié ensemble, c'était pas grand-chose. Et il est reparti tout content et tout. Et ma paix était revenue. Et j'ai compris aussi une autre chose, c'est que ces trésors, on ne les garde pas pour soi. Parce que si on les garde pour soi, ils se ternissent. Il faut les partager. Il faut toujours tout partager. Nous sommes des frères et sœurs. Notre bénédiction, c'est d'être bénis les uns par les autres. Nous sommes en communion avec Dieu, nous marchons avec le Seigneur, nous grandissons ensemble, nous persévérons ensemble, nous continuons ensemble. Nous sommes une église. Et une église, c'est un corps. Et aucun membre ne vit pour lui-même. Nous sommes dépendants les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Mon frère, ma sœur, a besoin de moi, mais moi, vous ne pouvez pas savoir à quel point j'ai besoin de vous. Comme votre sourire, mes précieux. Quand vous me regardez, qu'est-ce que je suis heureux. Ça m'émeut. Mais c'est quand même quelque chose, vous savez. Nous sommes tous ensemble, nous marchons ensemble. Et Dieu nous a placés en un temps, à une époque, où nous devons vivre ensemble et continuer ensemble. Et c'est ensemble que nous allons vaincre et que notre vie chrétienne va triompher du monde. Mais aucun chrétien, Dieu n'a jamais dit qu'il bénirait un chrétien individuellement c'est dans l'Église que nous sommes bénis. C'est l'Église, corps de Christ. Christ est la tête, Christ est le chef. Nous sommes ensemble et nous avons besoin les uns des autres. Nous avons besoin de cette communion, nous avons besoin de cette proximité. Si mon frère a un fardeau, c'est mon fardeau. C'est pour cela que le Seigneur m'a terni la communion à un moment, parce que c'était ma communion, mon expérience, moi. Et le Seigneur ne veut pas moi. Il veut que notre vie chrétienne soit une vie offerte en sacrifice pour nos frères et nos sœurs. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ pour vous. Et la même chose pour moi, vous pour moi. Nous sommes interdépendants, nous avons besoin les uns des autres. Et si vous ne l'avez pas encore compris dans votre vie chrétienne, priez, insistez auprès de Dieu pour comprendre que vous avez besoin de votre frère, de votre sœur, qu'il est un cadeau inestimable pour vous. Et souvent, nous regardons un frère et une sœur comme un problème. Il n'est pas un problème. Il est votre joie, ou elle est votre joie, votre bonheur. C'est dans notre premier amour, il y a ce tressaillement de joie au fond de notre cœur, d'aller à une réunion et de rencontrer les frères, les sœurs, de se retrouver, de retrouver la communion fraternelle. Communion fraternelle. Quel mot précieux. Avez-vous pesé ce que veut dire communion fraternelle? Quand vous regardez dans les yeux votre frère, votre sœur, communion fraternelle, amour fraternel, c'est proximité fraternelle. Nous sommes un corps. Nous sommes dépendants les uns des autres. Nous avons besoin les uns des autres. Ça, c'est quelque chose de précieux. C'est si vous êtes votre premier amour abaissé, eh bien, c'est vos frères et sœurs qui en souffrent. Vous en souffrez, vous, mais l'Église en souffre aussi. Vous n'êtes pas indépendant de l'Église. Vous avez besoin de grandir, de marcher avec le Seigneur, de faire des progrès dans la vie chrétienne. Et ça, c'est précieux, c'est important. Si vous avez senti quelque chose qui ne va pas dans votre vie, ne laissez pas la chose aller plus loin. Peut-être qu'il faudra du temps pour revenir. Parce que parfois on s'est tellement éloigné que nous avons du mal à revenir. Mais prenez tout le temps. Soyez persévérants. Soyez acharnés jusqu'à ce que vous reveniez, jusqu'à ce que vous ayez tout mis en règle. Et je peux vous dire une chose, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de sacrifier. Ça vaut la peine de sacrifier l'orgueil, le moi, toutes ces choses. De toute façon, je vais vous dire, un jour on sera dans le ciel et le moi n'existera plus, le péché non plus, et la susceptibilité non plus. C'est toutes ces choses qu'aujourd'hui nous regardons comme importantes, eh bien, n'existeront plus. Alors, piétinez-les, mettez-les de côté, parce qu'elles n'ont aucun intérêt. Ce qui est important, c'est les choses éternelles, les choses essentielles. C'est là que nous devons porter nos regards. Nous allons prier. Ô Seigneur notre Dieu, que ta parole reste dans notre cœur, que nous sachions l'aimer, l'approfondir, qu'elle soit vraiment précieuse à nos vies. Oui, Père Céleste, nous voulons te demander que nous ne laissions pas des choses gagner notre vie et prendre ta place dans notre vie, que le péché disparaisse, que nous sachions t'aimer plus que tout, vivre pour toi, marcher dans tes voies. Vivre dans une communion parfaite, dans une dépendance complète les uns des autres. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, que nous soyons des frères et des sœurs, et que nous sachions marcher dans la vie chrétienne d'une manière qui te glorifie entièrement. Oui, Père Céleste, apprends-nous à revenir à toi. Si nous sommes loin, eh bien que nous sachions revenir et que nous sachions mettre toutes choses en règle. Crée en nous un cœur pur, renouvelle un esprit bien disposé, que nous ayons cette joie de vivre pour toi, de marcher dans tes voies, de faire ta volonté, que rien ne fasse obstacle entre toi et nous, que vraiment il y ait une joie parfaite les uns avec les autres et avec toi. Oui, Père Céleste, gloire à ton nom et louange à toi, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.